Bonjour à tous. Officiellement, elle est interdite. Et pourtant, nous allons voir que peu à peu, la reconnaissance faciale se met en place en France à travers toutes sortes d'expérimentations. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer comment l'identification des personnes avec des caméras de surveillance avance masquée. Et vous nous expliquerez pourquoi on y aura droit, cette fois-ci très clairement d'ailleurs, lors des Jeux Olympiques de 2024.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
C'est un des grands noms de l'informatique et des nouvelles technologies. Comme beaucoup d'entreprises de ce secteur, IBM travaillait sur la reconnaissance
voilà,
faciale.
Voilà, ça c'était le 9 juin dernier sur France Inter. On apprend qu'IBM renonce à vendre des logiciels de reconnaissance faciale à la police parce qu'ils sont encore très imparfaits. Alors il se trouve que peu à peu en France, eh bien des expérimentations ont lieu localement. Tout se passe en fait comme si on était en train de construire une voiture sans avoir encore le permis de conduire. Alors pour bien comprendre ce qui est en train de se passer en coulisses, Philippe Reltien, il faut d'abord rappeler que pour faire de la reconnaissance faciale, on a besoin de trois outils.
Oui, alors il vous faut d'abord un fichier de photos, ensuite il vous faut des caméras et enfin un logiciel qui vous permettra de recouper ce que voient les caméras avec les photographies qui permettent d'identifier ces personnes.
Alors certains de ces outils, on les a déjà. Des caméras par exemple, il y en a dans de nombreuses communes en France et c'est pareil pour les fichiers de photos.
Oui, il existe notamment auprès des tribunaux le fichier des antécédents judiciaires qu'on appelle le TAJ. Écoutez à ce sujet Martin Drago. Il est juriste pour l'association militante La Quadrature du Net. Ce fichier, dit-il, on l'utilise déjà pour identifier des auteurs de crimes ou de délits.
Le fichetage et la reconnaissance faciale est permis depuis 2012. On sait aujourd'hui, avec un rapport de l'Assemblée nationale, qu'il y a 18 millions de personnes qui sont dans ce fichier et 8 millions de photos. Donc il faut voir que c'est énorme. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui que la police peut déjà faire de la reconnaissance faciale a posteriori, hein, non pas en flag et en temps réel, mais finalement la différence est assez petite. Sur plus de 8 millions de photos sur la voie publique en France.
Oui, donc la reconnaissance faciale existe déjà de fait. Seulement, Martin Drago vient de nous dire quelque chose d'essentiel, Philippe, c'est que cette reconnaissance faciale en France, on a le droit de le faire qu'à posteriori.
Oui, l'identification en temps réel, en vous observant dans la rue par exemple, ça c'est toujours interdit. C'est interdit au niveau européen grâce au règlement qu'on appelle le RGPD et c'est contrôlé en France par le gendarme des données biométriques qu'on appelle la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté.
Donc on ne peut pas faire de reconnaissance faciale généralisée. Maintenant, dans certains cas, on peut tout de même s'en approcher.
C'est ça. Et c'est ce qu'on a notamment fait en février 2019 à Nice, la ville dirigée par Christian Estrosi. Là, on a utilisé un logiciel israélien qui permettait de scanner l'entrée du carnaval. L'exercice a consisté à identifier un supposé fichier S, mais ce fichier S, en réalité, était un volontaire, comme nous le raconte Félix Tréguet, qui est lui aussi membre de la Quadrature du Net.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne volontaire qu'il s'agissait de retrouver parmi les milliers de participants qui acceptaient volontairement de passer dans le portique de reconnaissance faciale. Et donc cette personne a été authentifiée, il n'y a pas eu de faux négatif.
Concrètement, c'est juste cette personne qui a donné sa photo à la police municipale, ensuite qui est allée marcher dans le carnaval, et la police a réussi à le retrouver tout de suite, mais c'était qu'une expérimentation, il n'y avait pas de lien avec les fichiers.
Ouais, donc ça a été une expérimentation qui a fonctionné. Et à Nice, il y en a eu une autre, hein, d'ailleurs.
Oui, alors, c'était en janvier de l'année dernière. On a voulu faire de la reconnaissance faciale dans une rame de tramway.
Mais je croyais que c'était interdit.
Ça l'est, mais pour rester dans les clous, on n'a pas cherché à identifier les visages des passagers. On a juste voulu lire leurs émotions pour évaluer l'humeur des gens. Voir s'ils étaient heureux ou stressés, pour faire simple. Écoutez à ce sujet Guillaume Cazenave de la société Too-Eye. C'est lui qui a réalisé cette expérience.
Monsieur Estrosi est très pro-innovation et a eu la gentillesse de répondre à une sollicitation qu'on avait faite au début de notre société sur la capacité de reconnaître des émotions dans le tramway. On était post-attentat et l'idée, la discussion, c'était d'essayer de détecter le bien-être dans la ville. Sauf que pour des raisons techniques, le flux caméra qui était transmis par onde radio arrivait de manière désagrégée et ne permettait pas à l'algorithme de fonctionner. Donc, on a eu des tests qui ont été faits. Après, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que les images n'étaient pas reçues.
Ouais, donc en fait, ça n'a pas marché.
Non, à cause de ce problème technique. Mais ça montre quand même que peu à peu, des outils qui s'approchent de la reconnaissance faciale sont testés en grandeur nature.
Et pas qu'à Nice d'ailleurs.
Non, c'est le cas aussi à Marseille, sur la Canebière, où il y a une cinquantaine de caméras intelligentes. Alors là encore, on ne reconnaît pas formellement les gens, mais on identifie quand même des situations assez précises, raconte encore Félix Tréguet.
Ça commence en fait à partir de 2014, lorsque le conseil municipal de la ville de Marseille vote des crédits d'études pour étudier d'abord la mise en place d'une solution de police prédictive, ce qui va être appelé l'observatoire Big Data de la tranquillité publique et qui vise à croiser plein de jeux de données issus des services de police, des hôpitaux, des régies de transport. Et il y a un autre projet à côté de celui-ci, assez complémentaire, qui concerne la vidéosurveillance automatisée. C'est la société SNEF, une société marseillaise qui a remporté ce marché et qui a du coup branché une cinquantaine de caméras à partir du mois de décembre 2019 à un algorithme d'analyse automatisée pour reconnaître des comportements suspects, des événements suspects et déclencher automatiquement des alertes dans le centre de commandement dans lequel sont acheminés les différents flux des caméras de vidéosurveillance de la ville.
Oui, donc ces caméras sont intelligentes en quelque sorte et elles détectent des comportements suspects, nous dit votre interlocuteur. Mais quel comportement précisément ?
Eh bien ça, c'est ce que nous précise Martin Drago qui observe ce projet pour la Quadrature du Net.
Les 50 caméras, elles vont faire des relevés d'alerte quand il y a des objets abandonnés, quand il y a des individus au sol, quand il y a des graffitis qui sont en train de d'être faits sur des murs, ou quand il y a la destruction de mobilier urbain. Typiquement, je prends un exemple, si vous cassez un abribus en manif, ça veut dire qu'en fait, un algo va tout de suite le repérer et alerter le policier qui regardait les images. Et puis, ce qui est fait aussi sur ces 50 caméras, c'est qu'une fois que les caméras ont filmé et que donc les vidéos sont archivées, la police peut utiliser des filtres, hein, et là, les filtres, ça va être visage ou silhouette. Donc, c'est-à-dire qu'elle va dire, cette personne-là, je l'ai vue détruire un abribus, est-ce que tu peux me retrouver tout son parcours sur plusieurs caméras ?
Oui, ce qui là, pour le coup, ressemble plus à ce qui se fait déjà ailleurs. En revanche, à Metz, au stade de Saint-Symphorien, Philippe, là, c'est vraiment de la reconnaissance faciale qu'on envisage de faire.
Oui, alors, tout part d'incidents graves fin 2016 lors d'un match à Metz contre Lyon. Un match interrompu, annulé, rejoué, parce que des pétards avaient atteint le gardien de but lyonnais Anthony Lopez. Plusieurs supporters ont été poursuivis et interdits de stade et du coup le club a créé un fichier de ses supporters avec leurs photos.
Oui, ces supporters, on ne tient pas vraiment à les voir revenir dans le stade.
Exactement, et c'est pour ça que le club s'est dit qu'il pourrait être utile d'avoir des caméras couplées à un logiciel de reconnaissance faciale. Il a donc acheté du matériel qui permettra de le faire le jour où ce sera autorisé.
Et qui permettra donc officiellement. Ce dispositif aujourd'hui n'est pas autorisé, sauf que des supporters se sont quand même demandé si on ne l'avait pas testé.
Oui, alors cette hypothèse a été émise par un spécialiste des nouvelles technologies, le journaliste Olivier Tesquet, dans un livre qu'il a publié. Et du coup, des supporters messins ont fait le rapprochement avec d'étranges consignes données à l'entrée un soir de match contre Strasbourg. C'est ce que nous raconte Pierre Barthélémy, l'avocat des supporters.
Les supporters messins se sont souvenus que lors du match contre Strasbourg, beaucoup d'entre eux avaient dû retirer leurs lunettes, leurs casquettes ou leur écharpe. Ils ont dressé très rapidement un lien entre la révélation dans la presse et ce nouveau dispositif de sécurité qu'on leur a imposé à l'entrée.
Ils ont pensé après coup qu'ils avaient été filmés à ce moment-là.
À leur sens, il y a un lien entre cette révélation et la raison pour laquelle on leur a demandé de découvrir leur visage à l'entrée du stade.
Ouais, donc eux émettent cette hypothèse. Maintenant, est-ce que pour autant on a effectivement testé la reconnaissance faciale sur des supporters ?
Eh bien, imaginez que c'est ce qu'essaye encore aujourd'hui de savoir la CNIL. Mmh. Sa présidente Marie-Laure Denis m'a expliqué qu'elle a ouvert deux enquêtes lorsqu'elle a pris connaissance de tout ce qu'on vient de raconter.
J'ai diligenté deux contrôles des services de la CNIL sur place, à la fois dans la société, au sein de la société que vous avez citée et au football club de Metz. Nous sommes en train de finaliser ces contrôles dont les résultats seront connus d'ici quelques semaines. Mais je peux vous assurer que vous aurez l'occasion d'en voir les résultats de ce contrôle.
Ouais, donc il faudra attendre et on n'en saura pas plus pour l'instant.
Non, mais j'ai quand même interrogé à ce sujet Guillaume Cazenave, le directeur de la société Messine 2i, qui a fourni le matériel de vidéosurveillance, et lui dit ne pas savoir si cet essai a eu lieu ou non.
On a vendu un logiciel, on a vendu un serveur qui permet, entre autres, de faire de la comparaison faciale. Nous ne sommes pas opérateurs de système, okay, c'est important, on vend un logiciel, et à notre connaissance, il n'a pas été activé. Je vois pas ce que je peux dire d'autre, si ce n'est le fait que, oui, le logiciel pourrait marcher si la personne voudrait mettre une photo et vérifier qu'elle est reconnue. Voilà, mais heureusement, c'est ce que j'ai vendu.
Ouais, donc on n'est pas plus avancé. Et du côté du FC Metz, on en dit quoi ?
Eh bien, on dément. La directrice du FC Metz, Hélène Schrub, elle m'a déclaré, noir sur blanc, que la reconnaissance faciale n'a pas été testée. Écoutez ce qu'elle m'a écrit, nous avons fait lire son témoignage par une journaliste.
Le FC Metz a étudié avec la société Touai la possibilité de mettre en place dans le futur un dispositif de reconnaissance faciale au stade Saint-Symphorien avec pour objectif d'empêcher effectivement l'accès aux personnes théoriquement et juridiquement interdites au stade. Nous n'en sommes pas encore à ce stade et nous n'avons pas non plus acté notre décision finale. C'est pourquoi aucun dispositif de reconnaissance faciale n'a été mis en place au stade Saint-Symphorien.
Oui, donc si on se résume, à Metz, il existe bien un projet, on a bien le matériel nécessaire, mais le club affirme qu'on ne s'en est jamais servi.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a parlé jusqu'ici de reconnaissance ou d'examen, en tout cas par des caméras, des visages, Philippe Reltien. Maintenant, certaines communes ont aussi tenté d'expérimenter des dispositifs de reconnaissance d'autre chose, du son, par exemple.
Oui, et c'est le cas à Saint-Étienne. Une filiale d'une société d'armement a proposé à la mairie de coupler des caméras avec des micros pour identifier non pas des visages sur la voie publique, mais des bruits anormaux et dans un quartier sensible. Écoutez ce que raconte à ce sujet Martin Drago de la Quadrature du Net.
C'est une expérimentation que voulait mener le maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriot, qui a déjà démultiplié les nombres de caméras de vidéosurveillance dans sa ville. Et il voulait maintenant aussi les coupler avec des capteurs sonores. Alors le premier projet, c'était des capteurs sonores, un peu comme la vidéosurveillance automatisée, qui se déclenchait à partir de certains bruits, comme des bruits de verre, des bruits de graffiti, des bruits de cris dans la rue. À partir de ce moment-là, le capteur sonore captait le bruit, déclenchait une alerte au niveau du centre de supervision urbain, qui, et ça c'était dans le premier projet, qui envoyait automatiquement des drones, pas pilotés par des humains, des drones automatiques, qui allaient voir sur place, filmer, et seulement à partir de ce moment-là, peut-être l'envoi d'une patrouille humaine.
Ouais, donc ça, c'était le projet. Mais ce projet, il a été retoqué.
En effet, par la CNIL, parce qu'elle a considéré qu'il y avait un risque d'atteinte à la vie privée, puisqu'on aurait pu capter aussi des conversations privées. C'est ce que nous explique Jean-Michel Miss, qui est député La République En Marche de la Loire et membre du Conseil National du Numérique.
Dans le cas de Saint-Étienne, il y avait une volonté effectivement d'identifier un certain nombre de bruits qui seraient suspects à des moments donnés de la journée. On peut penser à des bruits de portières qui claquent, à des bruits de verre, à des coups de feu, qui sont des bruits qu'on peut dire génériques puisqu'ils sont comparés à une base de données. Là où la difficulté s'est posée, c'est que on peut imaginer aussi que ces bruits soient pour le coup des bruits biométriques, c'est-à-dire la reconnaissance de la voix. Et au sein de la reconnaissance de la voix, un élément biométrique d'une personne qu'on va reconnaître, qu'on pourra réidentifier, parce que on peut comparer, par exemple, sa voix avec une base de données éventuelle. C'est pas le cas de Saint-Étienne à ma connaissance, mais je pense que ces levées de doutes n'ont pas été faites dans de bonnes conditions et que l'expérimentation telle que la CNIL a eu à en connaître, évidemment, ne présentait pas les garanties nécessaires en termes de liberté publique.
Donc à Saint-Étienne, on a renoncé, mais ça a été la même chose à Cannes.
Oui, alors à Cannes, après le confinement, le maire a voulu vérifier si tout le monde portait bien un masque en allant au marché. Et pour ça, il a fait appel à un prestataire, la start-up Datacalab. Elle a donc filmé les gens à l'intérieur du marché et compté ceux qui avaient ou n'avaient pas de masque.
Mais les gens, ils savaient qu'ils étaient filmés ?
Non, mais comme il ne s'agissait pas de les identifier, pour Xavier Fischer, le patron de cette start-up, il n'y avait pas de problème.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé donc une caméra et un petit ordinateur donc à l'intérieur du marché Fortville. Cette caméra ne bougeait pas et filmait l'entrée du marché uniquement. Donc enfin, c'est assez simple. Dès qu'une personne rentrait sur le marché, on la comptabilisait, donc c'est plus 1. Et ensuite, on regardait via les points en fait du visage qu'on est capable de détecter si cette personne porte un masque ou non. Donc vous êtes rentré sans masque, vous êtes compté comme quelqu'un sans masque.
J'ai été filmé ou pas ?
Vous avez été filmé, oui. L'image est passée dans notre ordinateur en 1/10 de seconde et a été supprimée instantanément.
Ouais, donc pour lui, il n'y avait pas de souci.
Non, lui considérait qu'il ne s'agissait pas d'une intrusion dans la vie des gens puisqu'il ne faisait que compter les masques.
On n'est pas un œil, on compte les masques. Donc on a une tâche qui est binaire. On est capable de voir si la personne a un masque ou non. La vidéoprotection, effectivement, on stocke une vidéo. Nous, on a quelque chose de très concret qu'on veut détecter. C'est un nombre de personnes, un pourcentage de port du masque.
Ou c'est voir sans regarder ?
Notre but, c'est d'arriver à voir des choses, donc par exemple le port du masque, sans regarder. Donc sans avoir jamais personne qui regarde. On est le cliqueur à l'entrée du concert. C'est tout.
Ouais, c'est tout, sauf que la CNIL, elle, bah, elle ne partage pas cette vision des choses.
Non, elle a estimé que les gens ne pouvaient pas exercer leur droit d'opposition puisqu'ils ne savaient pas qu'on analysait leur visage. Résultat, à Cannes, l'opération s'est arrêtée. Tout comme d'ailleurs dans le métro à Châtelet, où on a fait la même chose.
Ouais, donc là encore, c'est tombé à l'eau. Mais il n'empêche que peu à peu, hein, ce qu'on voit, c'est que le matériel, lui, se met en place. C'est un peu comme un puzzle qu'on assemblerait, et souvent d'ailleurs avec le soutien des fabricants.
Et oui, des fabricants qui ont intérêt à se positionner sur ce nouveau marché, au cas où un jour, le verrou de la réglementation sauterait. Par exemple, à Valenciennes, des centaines de caméras de surveillance ont été offertes à la ville par l'équipementier chinois Huawei. Vous savez, c'est cette société qui fait la promotion de la 5G partout en France. C'est ce que raconte l'expert Félix Tréguet.
Huawei fournit gratuitement les caméras et le logiciel à la ville de Valenciennes, parce qu'évidemment, c'est intéressant pour eux. La ville de Valenciennes profite gratuitement de la technologie. Et Huawei, finalement, va se servir de Valenciennes comme un laboratoire d'expérimentation pour ses propres technologies.
Un laboratoire d'expérimentation.
Oui, parce que si vous mettez bout à bout tout ce qu'on vient de dire, vous voyez bien que beaucoup de communes en France testent des systèmes différents. Et c'est ce qui fait dire au journaliste de Télérama, spécialiste des nouvelles technologies, Olivier Tesquet, que c'est par les communes qu'on est en train de préparer le terrain.
On est face à des municipalités, notamment en France, qui sont transformées en showroom sécuritaire, un peu. Quand on voit effectivement à Valenciennes Huawei qui offre des caméras de vidéosurveillance, c'est un peu comme à Nice et à Marseille pour l'installation de portiques de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Cisco avait approché la région, donc Cisco, entreprise américaine, là aussi on peut parler de souveraineté numérique. Mais il n'y a pas d'appel d'offres, en fait. L'entreprise arrive, vous dit, on vous propose une solution gratuite, comme ça tout le monde est content. Et finalement, les seuls qui ont à pâtir de cette situation, bah, ce sont les habitants, et c'est le débat public qui est quand même assez cruellement sous-informé sur ces questions-là.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors, on a vu que des expérimentations ont lieu dans de nombreuses communes de France, Philippe Reltien, mais on va voir maintenant qu'on en fait aussi des expérimentations à l'étranger.
Oui, parce que dans certains pays, vous pouvez faire des choses qui sont interdites en France.
C'est-à-dire ?
Eh bien, d'abord, on peut vendre du matériel qui ne pourrait pas être utilisé chez nous. Selon le député Jean-Michel Miss, c'est notamment le cas pour le leader français Idemia, une société qui équipe des gares en Chine et la police fédérale américaine.
On a en France des leaders qui opèrent les services du FBI notamment. Alors comme c'est illégal pour l'instant de le faire de manière généralisée dans nos pays ou en Europe, elle le fait dans les pays qui l'autorisent. Donc c'est vrai qu'elle le fait à Singapour, elle le fait aux États-Unis. C'est un peu comme Toyota qui vend des pick-up à Al-Qaïda. On peut pas accuser une entreprise qui a une vocation internationale de tous les cas de mauvais emploi des technologies qui sont déployées par leurs clients.
Donc lui comprend qu'on vende à l'étranger, qu'on puisse vendre en tout cas du matériel interdit d'utilisation chez nous. Maintenant, vous avez aussi une administration française, et là c'est autre chose, qui elle ne peut pas tester la reconnaissance faciale en France et qui va le faire ailleurs.
Oui, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du ministère de l'Intérieur. Il va être responsable de la sécurité des stades olympiques en 2024. Il est donc en train de réfléchir à des solutions de ce type. Mais comme il n'a pas le droit de faire tous ses tests en France, il utilise le centre technique d'Interpol de Singapour, comme le raconte le spécialiste Félix Tréguet.
La préfecture de police de Paris voulait tester une solution de reconnaissance faciale dans l'espace public avec la société Idemia. La CNIL a apparemment, elle en avait encore le droit à l'époque, c'était avant l'entrée en vigueur du RGPD, émis une fin de non-recevoir vis-à-vis de ce projet d'expérimentation. Et du coup, le ministère de l'Intérieur a passé une convention avec le gouvernement de Singapour pour que cette expérimentation puisse avoir lieu dans un hub de transport de la cité-État.
Ouais, donc on teste ailleurs ces dispositifs. Sauf que de nombreuses études ont montré, Philippe, que pour l'instant, eh bien, ces dispositifs, ils ne sont pas fiables.
Effectivement, il y a encore trop de biais et d'erreurs d'identification. Écoutez ce que nous raconte encore à ce sujet le journaliste Olivier Tesquet.
Moi, j'ai fait le test sur mon visage, et plusieurs fois, on m'a présenté comme une personne de couleur noire. On m'a dit même que je faisais partie d'une tribu nigériane. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai le nez un peu aplati, parce que j'étais sorti au forceps quand j'étais petit, et que du coup, l'algorithme persuadait qu'à cause d'un nez un peu comme ça, un peu aplati, je serais une personne africaine. J'ai aucune idée, c'est vraiment une supposition que je fais, mais en tout cas, il y a tout un tas de biais. Et puis certaines personnes avaient des adjectifs qui étaient adossés à leur visage, extrêmement stigmatisants. Quand on se dit que dans une base de données, il y a des visages qui sont catégorisés sous l'étiquette et l'appellation négroïde, on voit bien qu'en termes justement de résolution des biais algorithmiques, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Mais pourquoi on a encore beaucoup de chemin à faire, Philippe ? Qu'est-ce qui coince dans cette technologie ?
Eh bien, le problème, c'est que les algorithmes se trompent. C'est un peu comme le cerveau des humains, il faut de l'entraînement. Et selon la manière dont vous les formez, ils deviennent plus ou moins performants. C'est ce que pense l'avocat spécialisé sur la question au cabinet Hogan Lovells, Patrice Navarro.
On entraîne les outils sur des bases de données qui comportent essentiellement des photos d'hommes caucasiens. D'où la présence de nombreux faux positifs et de biais liés à l'ethnie ou au sexe. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, ces technologies sont pas encore parfaitement au point. C'est pas évident. On capte sur des images de mauvaise qualité, des gens en train de bouger, qui peuvent porter des casquettes, des lunettes de soleil. Tout ceci peut très bien fonctionner si c'est correctement encadré et ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Mais encore faut-il que ça fonctionne.
Oui, ça renvoie à ce qu'on entendait au début de l'émission sur IBM, qui refuse désormais de vendre ses logiciels à la police américaine. Alors on va s'arrêter là-dessus quelques instants. Maintenant, je vous propose de rester avec nous parce que dans une seconde partie, eh bien vous allez voir que ce qui est interdit aujourd'hui pourrait bien être autorisé demain.
Clothes are sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever. Forever.
Une musique minimaliste entre soul et jazz, une voix granuleuse, douce à la fois. C'était Hurts, dernier single de la jeune révélation londonienne, Arlo Parks.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on a compris que la reconnaissance faciale de masse dans la rue et en temps réel, c'est toujours interdit en France, Philippe Reltien, on a vu pourquoi. Maintenant, les choses pourraient bien évoluer et peut-être même d'ailleurs assez vite.
Oui, en prenant en compte un élément essentiel, c'est-à-dire le consentement des gens.
Alors précisez.
Eh bien, le consentement préalable, c'est la clé qui va faire sauter quelques verrous. Un exemple, Alicem. C'est une application du ministère de l'Intérieur qui permettra bientôt de renouveler ses papiers à distance. Écoutez le député du Modem, Philippe Latombe, en première ligne sur le sujet à l'Assemblée nationale. Il nous explique comment ça va marcher.
Alicem, c'est une technologie que le grand public peut avoir, par exemple, sur son téléphone portable. C'est la technologie qui permet de débloquer son téléphone portable. Eh bien, Alicem, c'est la même chose, mais pour l'ensemble des titres ou des opérations qu'on a à faire avec l'État. Par exemple, pour renouveler son permis de conduire, simplement de pouvoir montrer qu'on est bien le titulaire du permis et qu'il faut le renouveler. Sur sa carte d'identité, même chose. Sur les sites du type site d'État, impots.gouv.fr, de la possibilité de s'identifier par cette technologie-là rapidement, comme on le ferait sur un smartphone quand on l'achète.
Donc si je veux renouveler mes papiers, je télécharge l'appli sur mon smartphone et ensuite il faut qu'elle m'identifie.
C'est ça. Et pour ça, vous devez regarder votre smartphone, faire un selfie et une vidéo et donc faire de la reconnaissance faciale.
Mais vous disiez qu'il y avait des biais et que la technologie n'était pas au point.
Oui, mais là on a rajouté une fonctionnalité qui accroît la probabilité que ce soit bien vous. C'est ce que nous explique Jérôme Lethier, le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés qui va lancer cette application.
On vous demande simplement, à un moment donné, ça s'appelle la reconnaissance du vivant, de bouger, donc ça peut être de sourire, de cligner les yeux, de tourner la tête à droite ou à gauche. Ça permet, dans l'analyse vidéo qui est ensuite faite de votre visage, de vérifier qu'on n'est pas face à une attaque de type photographie ou quelqu'un, simplement en mettant en face du téléphone une photographie de vous, se ferait passer pour vous. Donc, pour lutter contre l'usurpation d'identité, on a à la fois de la reconnaissance faciale, mais également ce qu'on appelle de la reconnaissance du vivant, pour être capable de distinguer une simple photographie ou un montage grossier du véritable visage de la personne.
Et là, ça ne pose plus de problème réglementaire ?
Non, parce que si vous utilisez l'appli, ça veut dire que vous en acceptez le principe. Donc pour Jérôme Lethier, les questions éthiques posées par la surveillance dans l'espace public, là, ne se posent plus.
Je pense que tout ce débat qui mérite d'avoir lieu est très vif lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour reconnaître quelqu'un éventuellement contre son gré. Et là, je peux tout à fait comprendre que le débat public soit nourri, que certaines entreprises indiquent qu'elles veulent renoncer à ces facultés. Tout ça, ce sont des questions qui ne s'appliquent pas à Alicem. Je rappelle simplement qu'Alicem vient aider une personne qui veut faire une démarche administrative, qui souhaite le faire à distance, de prouver qui elle est, à part qu'au lieu de le prouver devant un agent public en montrant un papier d'identité, elle le fait depuis son téléphone. Donc pour moi, en utilisant Alicem, je vais prouver que je suis Jérôme Lethier.
Et je le fais en conscience. D'ailleurs, cette question du consentement, Philippe, c'est là-dessus que beaucoup de décideurs travaillent en ce moment.
Oui, par exemple, dans les aéroports, on crée déjà deux couloirs séparés à l'enregistrement. Rapide, avec la reconnaissance faciale pour ceux qui l'acceptent, et plus lent pour ceux qui le refusent. La société Idemia a fait, sous contrôle de la CNIL, des essais d'embarquement sur des vols avec des volontaires avant le confinement, en utilisant le système que nous décrit le député Jean-Michel Miss.
En fait, pour faire très simple, le QR code, qui est l'élément qui figure sur votre titre physique d'embarquement qui vous est donné lorsque vous déposez notamment vos bagages, cet élément incorpore également, au même moment, un petit code qui est la transcription de votre photo d'identité. Et les deux éléments figurent dans le même document de passage. Et ce document de passage vous permet ensuite, lorsque vous franchissez les différentes étapes pour aller jusqu'à l'avion, de gagner du temps, de ne plus être obligé de présenter votre titre d'identité à chaque fois.
Donc ça, c'est pour ce qui se prépare, ce qui se met en place dans les aéroports. Mais on y pense aussi pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 et surtout pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Oui, le comité d'organisation des Jeux envisage de sécuriser l'entrée des stades et des fan zones grâce à la reconnaissance faciale. Pour ça, un appel d'offres a été lancé et dans les starting blocks, on retrouve la société Messine 2i de Guillaume Cazenave.
Imaginons que dans les conditions générales de vente d'un billet, il soit offert la possibilité d'utiliser la comparaison faciale pour accéder plus rapidement à des lieux. Ce qui est facile à mettre en place, c'est 5-6 fils de filtrage qui sont des lignes de filtrage automatisées. Et là où une personne ne donne pas son consentement, et c'est son droit, il est important de le respecter, j'insiste, et ben, quelques fils où il y a un filtrage qui est fait de manière humaine et manuelle.
Donc la reconnaissance faciale en temps réel pour les Jeux Olympiques, ça pourrait être légal.
Eh bien, on peut le penser. En tous les cas, Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, n'exclut pas de rendre un avis favorable pour l'expérience.
C'est envisageable sur la base soit d'un consentement qui soit réel, soit de textes qui autorisent pour une durée limitée, sur un périmètre défini, l'utilisation de ces pratiques. Donc tout ça est anticipable et faisable. Il s'agit encore une fois de concilier la protection des Français et en même temps la protection de leur liberté, ce qui est également important.
Mais du coup, Philippe, ça veut dire que les JO 2024 pourraient devenir un super laboratoire des technologies de surveillance ?
Et une belle vitrine avec en toile de fond un enjeu économique énorme, car ce nouveau marché de la reconnaissance faciale est estimé à 7 milliards d'euros. Pour Félix Tréguet de la Quadrature du Net, c'est aussi pour ça que beaucoup lorgnent ce gros gâteau.
La filière industrielle française en matière de sécurité se positionne pour rafler les marchés publics autour des JO 2024. Et des sociétés comme Atos, comme Dassault Systèmes, comme Capgemini et bien d'autres sont les fers de lance au niveau notamment de ce qui s'appelle le comité de filière des industries de sécurité, qui est une espèce d'organe faisant l'interface entre le ministère de l'Intérieur et les industriels. Toutes ces entreprises et ce comité de filière font en sorte que les entreprises françaises puissent rafler la mise lors des grands marchés publics qui vont se dessiner autour des JO 2024 et notamment des questions de sécurité lors de cet événement sportif.
Ouais, donc les industriels eux aussi poussent. Maintenant, la grande inquiétude derrière ça, Philippe, c'est ce qu'il y a en toile de fond, c'est que ces caméras, à terme, elles soient toutes mises en réseau.
Oui, et techniquement, c'est déjà possible, localement. Le réseau ferroviaire de la Côte d'Azur, de Vintimille à Marseille, par exemple, est équipé en caméras intelligentes. Or, selon Martin Drago, de l'ONG La Quadrature du Net, toutes ces caméras sont aujourd'hui parfaitement compatibles.
Il y a le système de Marseille, mais ensuite, il y a la SNCF elle-même qui déploie le même type de système de vidéosurveillance automatisé. Donc, en fait, on va arriver dans une imbrication de différents outils, de différents appels d'offres, collectivités, entreprises, entreprises privées, entreprises publiques, à la fin qu'il va arriver un maillage de surveillance algorithmique de l'espace public assez impressionnant.
Oui, la grande peur, la grande crainte, c'est que tout ça tombe un jour entre de mauvaises mains, d'où la mise en garde qui est lancée par le député Modem, Philippe Latombe.
Oui, pour lui, tout ça doit encore être encadré, car la surveillance est un peu comme un jeu de Lego. Il pense donc que sans une législation stricte, la reconnaissance faciale représente encore un danger.
Quand une personne atteinte d'Alzheimer divague et qu'on la retrouve pas et qu'elle est en risque pour sa vie, tout le monde se dit on devrait pouvoir l'utiliser. Sauf que c'est le début d'un usage qui n'est pas cet usage-là. Les Chinois ont commencé par ça aussi. Ils ont commencé par contrôler dans leur population les criminels qu'ils avaient sur des fichiers sur lesquels ils avaient donné l'autorisation de faire de la comparaison. Et au fur et à mesure, ils ont fait grossir le fichier jusqu'à avoir la totalité de la population et leur donner des notes de crédit social. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, si on n'a pas défini le cadre strict, qu'on n'a pas mis des barrières importantes, et notamment des barrières de type constitutionnel, l'usage va créer le besoin va créer un nouvel usage, et donc c'est une chaîne sans fin.
Alors certes, pour l'heure, le RGPD et la CNIL veillent au grain, mais le règlement européen n'a pas de gendarme, et le gendarme français, lui, a peu de moyens. Tandis qu'en face, les fabricants de matériel poussent à la roue avec des relais politiques sur le terrain et à la clé des enjeux financiers considérables.
Et des enjeux démocratiques, hein, on l'a compris, c'était aussi le sujet de cette enquête, qui ne le sont pas moins. Bien, merci Philippe Reltien pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Julien Dumont. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad vous emmènera à Morges, en Suisse, à l'occasion du festival Le Livre sur les quais. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.